Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour les amis, excellent mercredi à vous, on vous promet. Un réveil est en effet animé dans tous les sens du terme.
Mignon, il y a plein d'autres méchants dans le monde. Mais moi, je vais être un super méchant.
C'est élégant, hein. Voilà un extrait des Mignons 2, Il était une fois Grou, le nouveau film dérivé de la saga Moi, moche et méchant, présenté en avant-première à Annecy.
Annecy, la Venise des Alpes, qui devient pendant une semaine la capitale mondiale du cinéma d'animation grâce à son festival international.
Oui, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Cannes pour le dessin animé. Dans ce secteur de l'animation, les Français font partie des meilleurs avec les Américains et les Japonais. Quel film crée l'événement cette semaine avec un S, quel films. Nous serons à 6h moins le quart avec Marcel Jean, qui depuis 10 ans et délégué artistique du Festival d'Annecy. À la une ce 15 juin, Julien.
Emmanuel Macron en Roumanie depuis hier soir. On en parle dans un instant dans le journal de 5h.
C'est le grand jour pour 523 000 élèves de terminale.
523 000 courageux qui, pendant 4 heures aujourd'hui, vont se triturer les méninges sur des questions aussi vastes que l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance. Bref, c'est aujourd'hui l'épreuve du bac de philo.
Alors nous allons philosopher ce matin.
Oui, avec un professeur agrégé, s'il vous plaît, le philosophe Gilles Verviche, qui va corriger nos copies en direct à 6h10. Ses conseils pour éviter le hors-sujet, ces astuces pour bien problématiser, car figurez-vous ma chère Ombline, que l'idée derrière la philo, ce n'est pas tant de trouver des réponses que de soulever des questions. Ah. Vous avez eu combien d'ailleurs à l'épreuve ?
C'est assez médiocre.
Bon, pareil. Alors, session de rattrapage à 6h10. Et puis, une partition pour conclure cette émission, comme chaque matin, et avec un film d'animation.
Ouais, séance de rattrapage encore. 94, Disney s'engage dans une nouvelle direction artistique. L'innovant Le Roi Lion avec pour les musiques le compositeur allemand Hans Zimmer et la pop star britannique Elton John. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Le thermomètre continue sa progression.
Ah oui, le thermomètre effectivement grimpe encore. Les températures gagnent quelques degrés, en particulier sur la moitié nord. Hein, parce que dans le sud, on a déjà eu très chaud hier. Aujourd'hui, ça devrait se maintenir, mais c'est dans le nord que ça grimpe avec la barre des 30 degrés, ça y est, qui est atteinte au nord de la Loire. 30 degrés pour Rouen et Charleville-Mézières, par exemple. 32 à Paris, on va gagner 4 degrés hein, par rapport à hier. 28 à Lille, là aussi, on gagne 4 degrés. 31 à Strasbourg. Dans le sud, alors dans le sud, ça se maintient. 35, 36 degrés dans la vallée du Rhône. 36 dans le Bordelais, en Occitanie. 30 degrés sur la Côte d'Azur. On respire mieux au bord de la Méditerranée parce qu'il y a du vent. Il y a le vent marin qui souffle. Ça nous donne un petit peu d'air. Dans le ciel, pas franchement grand chose à signaler. On a un soleil radieux, un peu plus de voiles nuageux que ces derniers jours. Et puis attention, cet après-midi, les orages éclatent dans la vallée du Rhône. On va surveiller ça de près.
Merci Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Soyez tous les bienvenus. Et à la une de ce 15 juin, Macron dans les Balkans, la Moldavie aujourd'hui, la Roumanie hier pour le président venu saluer les 500 soldats français déployés aux portes de l'Ukraine. Quel est le moral des troupes? Nous avons passé la journée avec elle. Reportage dans un instant. La vague de chaleur, épreuve supplémentaire dont se passeraient bien les candidats au bac qui plancheront ce matin à partir de 8h sur la philo. Comment s'organisent les lycées pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis séisme à Bordeaux, le club de foot des Girondins qui évoluait en Ligue 1 cette saison vient d'être reléguée en 3e division, faute de finances solides. Le club fait appel de la décision.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Costume de chef de l'Europe sur le dos, Emmanuel Macron est arrivé dans la soirée en Roumanie pour saluer les 500 militaires français déployés sur la base de l'OTAN de Constanța depuis le début de la guerre en Ukraine en février. Un engagement qu'a tenu à saluer Emmanuel Macron.
Je veux remercier l'ensemble des unités qui se sont si vite mobilisées et les unités qui sont en train de prendre la relève pour pouvoir ainsi nous protéger collectivement. Nul ne sait dire ce que les prochaines semaines et les prochains mois donneront. Nous ferons tout pour continuer à stopper l'effort de guerre russe, mais de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader, d'être présents. Vous avez été à cet égard des pionniers de ces déploiements.
Des militaires postés à près de 300 km de la frontière ukrainienne, relevés la semaine prochaine. Alors avant leur départ, notre envoyé spécial Europe 1 en Roumanie, William Molinier, a pu passer la journée avec eux. Reportage.
Sur la base de l'OTAN de Constanza, les chasseurs alpins du 27e BCA préparent sous la pluie leur paquetage avant de retrouver dans quelques jours leur montagne française. Ils laissent leurs consignes à leurs frères d'armes qui les relèvent.
L'état des véhicules, le travail qu'il y aura à faire derrière. Et après, au niveau des chefs mécaniciens, c'est savoir si le suivi du véhicule a bien été fait, si tout a bien été pris en compte.
Ils sont arrivés les premiers en Roumanie 5 jours seulement après l'invasion russe en Ukraine, sans vraiment savoir ce qui les attendait, comme l'explique leur chef de corps, le colonel Vincent Minguet.
La situation psychologique, l'environnement émotionnel dans lequel on était lors du déploiement était véritablement à prendre en compte. C'était un environnement complexe. On sentait l'hostilité. On ne sait jamais dans quelle direction on peut partir à la guerre.
Sous la tente, une partie de cartes s'improvise. Jusqu'à 98 militaires peuvent y dormir côte à côte. Rusticité avec laquelle l'adjudant Nicolas a dû s'adapter.
Comme vous pouvez le voir, on est tous entassés les uns aux autres. Chacun a son petit lit, son petit espace, sa petite armoire.
Et les ronfleurs.
On les isole, on les met de côté ou alors on met des boules caisses.
Ce bataillon sera porté à 1 000 000 d'hommes d'ici 1 an. Le camp militaire est voué à devenir une plateforme opérationnelle et stratégique de l'OTAN d'où pourraient partir en urgence les soldats français en cas de violation d'une frontière en Europe du Sud-Est. Constanza, William Molinier, Europe 1.
Et Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Moldavie qui accueille 100 000 réfugiés ukrainiens avant un possible déplacement demain à Kiev.
Avant de s'envoler pour la Roumanie, hier soir, Emmanuel Macron s'est lancé depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly dans la bataille des législatives. Nous sommes à 4 jours désormais du second tour.
Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, le président a réclamé une majorité solide à l'Assemblée alors que sa majorité absolue semble en danger. Panique de la Macronie, lâcheté, sketch à la Trump, répond l'opposition.
Une Macronie mise à mal par les accusations, notamment d'agression sexuelle et de viol visant le ministre des Solidarités, Damien Abad.
Avec un nouveau témoignage dans Mediapart hier de la part d'une femme assurant avoir subi en 2010 une tentative de viol de la part du ministre qui brigue un nouveau mandat de député dimanche dans l'Ain. Damien Abad réfute catégoriquement ces accusations.
5 heures passées de 4 minutes sur Europe 1. L'actualité, c'est aussi, vous le ressentez, cette vague de chaleur qui envahit la métropole. 34 degrés à Bordeaux, 37 à Toulouse hier. Voilà quelques-unes des températures relevées dans l'après-midi.
Une chaleur qui favorise les départs de feu. 185 hectares ravagés lundi dans le Gard. Hier, ce sont 70 hectares de forêt qui sont partis en fumée en Lozère. Des incendies qui peuvent toucher tout le territoire, mais pas de panique. Tout est prêt, assure Alexandre Joissard, le porte-parole de la sécurité civile.
Culturellement, on avait en effet ces feux qui étaient présents, ces zones à risque dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France. Donc on avait nos spécialistes feux de forêt qui étaient présents dans ces zones-là. Maintenant, on a vu les choses changer. On a eu les rapports du GIEC, on a eu des éléments sur le changement climatique, l'accélération de celui-ci. Et donc on a eu des réflexions pour faire évoluer notre réponse au risque. Aujourd'hui, face à ce risque-là qui est sur l'ensemble du territoire, on a fait évoluer notre stratégie opérationnelle, déjà pour l'accueil des moyens aériens. On a ce qu'on appelle des pélicandromes, donc des zones d'accueil de nos avions présentes sur le nord du territoire national. On a nos moyens terrestres, donc nos sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui sont maintenant spécialistes du feu de forêt, pas seulement dans la zone sud, mais sur l'intégralité du territoire, pour deux raisons. Pour pouvoir répondre aux risques sur leur zone locale et également pour venir en aide aux zones sinistrées durant l'été.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Et dans moins de 3 heures maintenant, c'est aussi sous cette chaleur étouffante que 500 000 lycéens vont plancher sur leur épreuve de philo de bac pendant 4 heures.
Et si vous avez des ados à la maison, ils n'ont pas dû très bien dormir cette nuit. Le bac, on le sait, c'est déjà très stressant. Alors à ça, ajoutez les températures caniculaires, pas idéales comme condition. Alors les centres d'examen s'organisent pour que les épreuves se déroulent au mieux. À l'image du lycée Catherine et Raymond Jeannot à Sens dans l'Yonne, où Arthur Pereira s'est rendu pour Europe 1.
On a des collègues qui sont déjà sur le terrain entre 5h30 et 6h le matin, ce qui permet d'ouvrir, d'aérer les bâtiments avant que les élèves n'arrivent.
Les volets sont encore fermés, les copies d'examen et les feuilles de brouillon sont déjà posées sur les tables des salles de classe. Philippe Gou, le proviseur, met tout en place pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions.
Éviter effectivement d'organiser les épreuves dans des salles évidemment trop exposées, maintenir les stores ou les volets fermés, alors sans évidemment que ça pose un souci aux candidats pour pouvoir lire les sujets. On a à peu près une centaine de bouteilles d'eau qui sont mises à disposition des candidats. Chaque jour.
En tout, ce sont plus de 1000 bouteilles d'eau qui sont entreposées dans les couloirs de l'établissement. En cas de malaise, juste à côté, le pôle santé est lui aussi opérationnel.
Les collègues infirmières qui sont naturellement présentes et qui pourraient être amenées à gérer des situations liées à des problématiques autour de la déshydratation par exemple.
Un message a été envoyé à chaque élève pour leur conseiller d'apporter de quoi boire et de quoi manger. Les travaux ont même été suspendus dans tout le bâtiment afin de garantir la réussite de chacun. À Sens, Arthur Pereira, Europe 1.
Et avec cette chaleur, il faut protéger les plus vulnérables. Préfets et agences régionales de santé ont été convoqués par Elisabeth Borne, la première ministre, hier. Dans le même temps, le gouvernement annonce la création d'un fonds de 500 millions d'euros pour la renaturation des villes.
S'il fait très chaud un peu partout en France, l'ambiance est en revanche glaciale aux Girondins de Bordeaux. Ils ont été relégués hier en National 1.
Le couperet est tombé après une relégation en Ligue 2 en mai. Ce sera finalement la troisième division. Sanction administrative pour ne pas s'être présenté avec des comptes en règle devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Bordeaux sous le choc. Compte faire appel, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un véritable séisme dans le football français. Les Girondins, club mythique, avec ses 6 titres de champion de France, ses 4 Coupes de France, sa grande histoire, ses joueurs de légende comme Zidane, Lizarazu, Gaëtan Huard, voit son avenir s'assombrir encore plus. Bordeaux en 3e division, c'est une catastrophe, s'indigne Alain Giresse, autre ancien joueur emblématique du club au scapulaire.
Il y a eu toute une organisation de destruction de ce club, là, depuis la reprise des Américains jusqu'à maintenant, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, je crois que si on voulait qu'il élimine, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Enfin, on se demande comment le club peut sortir de cette situation.
Depuis la vente des Girondins par M6, c'est la descente aux enfers. Après un fonds d'investissement américain, l'ancien président de Lille, Gérard Lopez, aux méthodes controversées, est arrivé aux commandes, mais avec des moyens limités. Le plan mis en place ces dernières semaines, apport de 10 millions d'euros et vente de joueurs, n'a pas convaincu le gendarme financier. Bordeaux, qui dans un communiqué fait part de sa consternation et qualifie la décision de brutale, annonce faire appel de cette sanction.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et merci à vous Alban Leprince pour ce journal 5h09.
Et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de La Teste en Nouvelle-Aquitaine et mon pari gagnant sera le 407 Antolia. Intermittente depuis plusieurs mois où elle souffle le chaud et le froid, cette jument a la particularité d'être invaincue en 2 tentatives sur le parcours des 1600 mètres qu'elle empruntera cet après-midi sur cet hippodrome de La Teste. Dès lors, son aptitude devrait pouvoir lui permettre de profiter pleinement de cet engagement assez favorable, d'autant plus qu'elle bénéficiera des 2,5 kg d'avantage concédés à son apprenti jockey Hugo Moisan. Alors notez bien, pour cet après-midi à La Teste, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 7, Antolia.
Le numéro 7, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et à dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h10, vous êtes pile à l'heure pour le pressing et avec nous Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
Canicule, toujours plus faux, toujours plus chaud, toujours plus tôt. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France que vous trouverez en kiosque ce matin, alors que des températures records pour une mi-juin vont être observées à partir d'aujourd'hui. Anissa Haddadi nous en parlait il y a quelques minutes. Un avertissement selon les climatologues qui martèlent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre des mesures fortes. Le Figaro, pour sa part, s'intéresse aux législatives. Macron dramatise l'enjeu du second tour, titre Le Quotidien, alors que le président a appelé hier les Français à un sursaut républicain. Et puis ce que la philo dit à la jeunesse, c'est le titre à la une de La Croix, alors que se tient aujourd'hui l'épreuve du bac de philosophie. Le journal donne la parole à 3 philosophes sur des thématiques qui résonnent avec les préoccupations des jeunes. Omblin, on commence avec vous.
Nous sommes le 15 juin et il aurait eu 79 ans aujourd'hui. Et le 5 décembre prochain, on commémorera les 5 ans de sa disparition.
Ouah, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule.
5 ans que Johnny Hallyday nous a quittés avec sa belle gueule à l'occasion de cet anniversaire. Une grande exposition itinérante va rassembler plus de 70 ans de souvenirs, d'objets, de reliques plus cultes les unes que les autres, des trésors de Johnny conservés. En grande partie par Laetitia Hallyday qui est à l'origine de ce projet. Les premiers détails sont dévoilés en exclusivité par Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Alors, c'est un projet digne d'une expo consacrée à des artistes d'envergure internationale, à l'image des Rolling Stones. On entrera dans cet espace de 2000 mètres carrés dessiné en forme de guitare. On entrera par le manche avec des images de ses entrées à lui en scène et en écoutant évidemment ses chansons. Ensuite, on traversera 12 chapitres, 12 moments de la vie de Johnny Hallyday, la rue, les États-Unis, le cinéma. Et figurez-vous qu'un studio européen sera même reconstitué pour raconter ses années yéyé. Et puis on découvrira également son mythique bureau de Marne la Coquette, lui aussi reproduit à l'identique. Ce qui sera exposé, ce seront essentiellement des objets, hein, plusieurs centaines, des guitares, des costumes de scène. Des costumes de scène, il y en a 50, 60 guitares. Il y aura aussi sa croix. Oui, il avait quand même 60 guitares.
Ouais, ma chance. J'en piquerais bien quelques-unes.
4 motos aussi. Une voiture, la C-Cobra, qui vient de Los Angeles. La croix, donc, de Johnny Hallyday. Sa green card, obtenue en même temps que sa nationalité américaine. Des objets et des documents intime, comme le contrat que Johnny avait signé avec Bruno Cocatrix lors de son premier Olympia. Cette vaste expo sur Johnny Hallyday passera 5 ans sur les routes. Première étape à Bruxelles le 20 décembre prochain, 2022, jusqu'au 15 juin 2023. Et rendez-vous à Paris, alors c'est pas tout de suite, hein, Porte de Versailles, de janvier à juillet 2024. Comme derrière chaque fan de Johnny se cache un collectionneur, ça reste 6 mois sur place, ouais. Mais ce sera pas avant un an et demi.
Bon, il faut bien ça pour tous les fans.
Elle est énorme, elle est immense, et puis il faut pouvoir la monter. Et puis la démonter derrière, donc il faut rester un petit peu quand même. Je disais que derrière chaque fan de Johnny se cache un collectionneur. Vous pouvez confier l'un de vos objets fétiches, hein, pour qu'il soit exposé si vous le souhaitez. Alors sachez qu'il manque essentiellement des maquettes, des scénographies de ses tournées. Voilà, si vous avez ça dans vos vitrines, dans le salon.
C'est noté.
Il m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie.
L'idole des jeunes, l'expo donc.
Oui, tout Johnny en une expo, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Ombline. Martin, à vous.
Oui, le débat sur les armes aux États-Unis est tragiquement revenu dans l'actualité après la tuerie d'Uvalde, hein, 21 morts, dont 19 enfants, dans une école du Texas. Et ce week-end, hein, le mouvement anti-armes manifestait aux États-Unis, des milliers de personnes dans la rue réclamant un meilleur contrôle et une nouvelle législation. Et beaucoup d'entre elles portaient des baskets vertes, des Converse pour être plus précis, hein, ces baskets en toile montante, devenues depuis quelques jours le symbole de la lutte contre la prolifération des fusils et autres pistolets automatiques. Alors tout est parti de la conférence de presse de Matthew McConaughey la semaine dernière à la Maison Blanche. Face aux caméras de tout le pays, l'acteur originaire d'Uvalde a raconté l'histoire de Maite Rodriguez, une petite fille de 10 ans qui a perdu la vie lors du drame. Elle portait ce matin-là des Converse vertes avec un petit cœur sur le pied droit, des chaussures que Matthew McConaughey avait avec lui. Écoutez son émotion.
Ce sont ces Converse vertes à ses pieds qui se sont avérées être le seul indice clair ayant permis de l'identifier après la fusillade.
Vous devriez l'entendre taper de rage son poing sur la table.
Oui, il est presque en pleurs d'ailleurs, exactement. Il sanglote. Hein.
Exactement. Lors du massacre dans l'école texane, le tueur a utilisé un fusil automatique, hein, qui rend l'identification des corps difficile, explique le New York Times. Les médecins légistes ont donc dû parfois avoir recours à l'identification grâce à des signes distinctifs, comme avec ses baskets. Alors l'histoire ne dit pas si ce sont vraiment les baskets de Maite Rodriguez ou un modèle similaire que Matthew McConaughey avait. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le site de la marque, le modèle vert est en rupture de stock. Plusieurs commerçants, notamment à Seattle, hein, ville connue pour son engagement anti-armes, ont raconté en avoir vendu des dizaines vendredi, la veille de la grande manifestation. Et même le militant David Hogg, rescapé d'une autre tuerie, celle de Parkland en 2018, a publié un dessin sur son compte Twitter, hein, invitant les manifestants à les porter. Ces baskets vertes sont devenues un symbole du contrôle des armes à feu aux États-Unis. C'est à lire sur le site de West France.
Merci Martin, c'est une histoire absolument déchirante. Comment est-ce qu'on peut en arriver là et devoir avoir recours d'une certaine manière à une paire de baskets pour identifier une petite fille de 10 ans. J'ai choisi pour ma part un article, on va dire un peu plus léger, hein, que vous retrouverez également sur le site de West France, article qui s'adresse à toutes celles et ceux qui ont des animaux de compagnie, car eux aussi souffrent de la chaleur, sûrement même davantage que nous, avec tous leurs poils. Il nous est donc indispensable d'être vigilants pour aider nos chats et chiens à traverser au mieux cette période de canicule. Voilà pourquoi le quotidien régional est allé demander conseil à un assistant vétérinaire. Première règle à respecter, éviter les balades, les sorties aux heures les plus chaudes. Ça paraît évident, dit comme ça, mais pas plus tard qu'hier après-midi, je me suis permis d'enguirlander, pour être poli, un imbécile qui traînait son chien de couleur noire dans la rue en plein soleil par 32 degrés, soit le meilleur moyen de brûler sérieusement les coussinets de son animal, car on ne s'en rend pas compte, mais avec nos chaussures, mais quand le mercure dépasse les 30 degrés. Le bitume, lui, en affiche 20 de plus. Privilégiez donc les balades à la fraîche le matin ou une fois le soleil couché. Et si pour X raison, vous devez absolument sortir en plein cagnard avec votre chien, prenez une bouteille d'eau pour humidifier ses coussinets toutes les 5 minutes. Évitez également de laisser votre animal marcher sur les plaques d'égout ou tout ce qui est métallisé d'ailleurs. Ça, sinon, c'est le barbecue assuré. Quant au chat, il est préférable de ne pas les laisser sortir du tout lorsqu'il fait très chaud et de ne pas les stimuler passer les 35 degrés. On oublie donc en ce moment les séances de jeu avec le laser rouge qui les rend dingues. Leurs petits palpitants vous en remercient d'avance. D'autant que contrairement à nos amis canidés, les félins ne sont pas très doués quand il s'agit de s'hydrater. Ça vous aura peut-être pas échappé. C'est une tannée pour les faire boire. Voilà pourquoi en période de canicule, il est fortement recommandé de mettre les croquettes bien sèches de côté et de les remplacer par de la pâtée ou des sachets de nourriture humide composés généralement à 90% d'eau. Il existe même des poudres saveur poulet ou saumon, je l'ai appris dans l'article, pour aromatiser l'eau que vous donnez à votre chat et ainsi l'inciter à boire davantage. On n'arrête pas le progrès. Autre conseil, mettez votre chien dans une pièce carrelée. Vous le verrez immédiatement s'y étendre de tout son long pour profiter de la fraîcheur de ce matériau. Et si ce n'est pas suffisant, s'il fait trop chaud, il est possible de tondre le ventre de votre chien. Comme ça, ses poils ne feront plus obstacle avec le carrelage. Alors, ce n'est pas forcément très joli, un chien qui est tondu du bidon. Mais je vous rassure, il s'en fout totalement. Hein. Et puis de toute façon, ça aura repoussé d'ici la Fashion Week. Si vous n'avez que du parquet, du lino, au pire de la moquette chez vous, sachez qu'il existe des tapis rafraîchissants pour vos animaux. Pas besoin de les mettre au réfrigérateur, au congélateur ou les tremper.
Les
hein,
animaux
y a rien à
au
faire.
Réfrigérateur.
Non, les tapis.
Là, je me suis envoyé un peu loin quand même dans le rafraîchissement.
Ouais, il faut un gros frigo pour y mettre un berger allemand. Les tapis réfrigérants, donc, oui. Ça marche très bien. J'en ai essayé un hier, pas plus tard qu'hier dans mon salon. 5 minutes plus tard, il y avait un chien et 2 chats couchés dessus. Et puis en parlant de chat, si le vôtre est blanc, la prudence s'impose car en raison de la couleur de son pelage, il est particulièrement sujet aux coups de soleil. Alban peut en témoigner, elle met régulièrement de la biafine sur les oreilles de Zizi.
Dès qu'il sort.
Qui, contrairement à ce que son nom indique, est un chat parfaitement chaste. Il existe des crèmes solaires au pH adaptées à la peau des félins. Mais vu les coups de griffe que vous obtiendrez en retour, vous allez vite préférer empêcher votre matos de sortir gambadé par 35 degrés. Comment aider nos animaux de compagnie en période de canicule, c'est à lire sur le site de West France.
Merci beaucoup Julien. Et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19, le journal permanent, Alban Le Prince.
La vague de chaleur qui nous touche serait la plus précoce depuis 1947, selon Météo France. Et pour cause, déjà 34 degrés hier à Bordeaux, 37 à Toulouse, et ça va continuer jusqu'à ce week-end. C'est donc un bac sous une chaleur étouffante qui se prépare pour 500 000 lycéens qui vont plancher sur la philo ce matin à partir de 8h. Le gouvernement appelle les centres d'examen à la vigilance en aérant les salles distribuant de l'eau et choisissant des salles ombragés pour les épreuves. Et puis discours de dernière minute pour Emmanuel Macron hier sur le tarmac de l'aéroport d'Orly avant de s'envoler pour la Roumanie. Le président, qui voit sa majorité absolue menacée, s'est lancé dans la bataille des législatives alors que nous ne sommes plus qu'à 4 jours du second tour. Un sketch à la Trump a raillé Jean-Luc Mélenchon.
Europe 1. Sur Europe 1, vous avez la parole chaque matin à 5h20. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent à Nantes.
Bonjour Denis Mourin.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur de Living Packets. C'est une société qui développe un emballage, je dirais, ultra innovant, une boîte réutilisable, connectée et désormais anti-choc. Expliquez-nous.
Oui, chez Living Packets, on développe des emballages intelligents, sécurisés et réutilisables.
C'est-à-dire, expliquez-nous, c'est quoi exactement ce produit ?
Ce produit, simplement, c'est l'idée qui consiste à remplacer aujourd'hui l'usage d'un carton à usage quasi unique par une solution qui permet de susciter pour le client le réflexe de réutilisation. Tout le monde a compris aujourd'hui que l'acte de réutilisation était un réflexe et qu'il allait devenir indispensable dans le monde entier, d'une part lié à l'augmentation du prix des matières premières, mais aussi la raréfaction des matériaux rares. Aujourd'hui, la seule solution pour obtenir une logistique responsable et durable, mais c'est surtout pour prévoir l'avenir, c'est de réutiliser les biens, réutiliser les produits. Donc aujourd'hui, si on considère aujourd'hui la livraison de colis dans la logistique actuelle et ses volumes, il est devenu évident, et en tout cas c'est une évidence pour Living Packets, de considérer tous les avantages que peuvent générer un emballage réutilisable.
Justement, The Box, hein, c'est le nom de votre produit, on peut le réutiliser combien de fois ?
The Box peut être utilisé plus de 1000 fois. Il est en matériaux polypropylène expansé. C'est une mousse de plastique très légère, infiniment recyclable. Et par sa robustesse, il peut être réutilisé à l'infini.
Autre spécificité de The Box, hein, de cette boîte, c'est qu'elle est bardée de capteurs, c'est ça ?
Elle est bardée de capteurs parce qu'aujourd'hui, si on veut que l'acte de réutilisation devienne réflexe, il faut proposer des services aux clients. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons intégré toute une intelligence à l'intérieur de l'emballage, de manière à ce que lorsqu'un client reçoive un emballage de ce type, il soit amené à pouvoir réutiliser le produit autant de fois qu'il le veut et avec une infinité de services. La possibilité d'intégrer, de réutiliser le produit dans l'économie circulaire, la possibilité de procéder à un nouvel envoi. Donc il faut susciter et maximiser l'offre de services.
Alors parmi les services que vous proposez, je crois qu'on peut suivre son colis à la trace, mais aussi savoir s'il a subi des chocs. Ça, c'est important, notamment pour les produits de grande valeur.
Oui, ça fait partie des fonctions primaires, hein, la possibilité de suivre son colis en temps réel, la possibilité d'être alerté dans le cas d'une chute, la possibilité de détecter une intrusion, la possibilité de suivre la température, l'hygrométrie à l'intérieur de l'emballage. Mais on va beaucoup plus loin, puisque en fait, grâce à un écran numérique qui est placé en façade de l'emballage, on peut interagir avec le client et lui proposer des services inédits.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
La possibilité, bien sûr, de simplement en appuyant sur un bouton, d'activer une fonction retour, la possibilité de verrouiller l'emballage, la possibilité de garder un produit à la maison avant de le renvoyer. On peut aujourd'hui, dans l'économie digitale, proposer des services qui n'existent pas encore.
Vous avez même mis, je crois, une caméra à l'intérieur de la boîte pour certifier que le produit transporté n'a pas bougé tout au long du trajet ?
Ça fait partie des éléments, effectivement, qui sont intégrés. Toute l'intelligence, en fait, que l'on place à l'intérieur de l'emballage permet aujourd'hui d'exploiter un nombre de capteurs, je crois qu'on en a près de 14, qui permettent aux clients d'être en contact direct avec le contenu.
Mais in fine, la boîte a quasiment plus de valeur que le produit qui est transporté.
Si on considère un emballage de ce type, et vous allez comprendre l'approche, et elle est essentielle, un emballage comme celui-ci, c'est 100 fois plus cher que l'usage d'un carton. Sauf que s'il est réutilisé 1000 fois, il coûtera 10 fois moins cher à l'usage. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie de réutilisation de l'emballage, comme la réutilisation d'une trottinette, la réutilisation d'un vélo. À partir du moment où on permet à un produit d'être réutilisable, le coût du produit est divisé par le nombre d'utilisations.
Avoir un impact positif sur l'environnement, c'est la genèse qui est derrière la création de Living Packet. C'est ça qui vous a donné envie de créer cette société ?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on était bien attentif aux attentes des consommateurs. Je pense que les consommateurs aujourd'hui sont fatigués de devoir jeter tous les cartons à la poubelle. Est-ce qu'ils seront recyclés ? Et toute la question est là. Aujourd'hui, le marché actuel en termes de colis, on est dans le monde à près de 200 milliards de colis et les tendances actuelles vont jusqu'à 400 milliards de colis d'ici 5 à 10 ans. Aujourd'hui, il faut trouver des alternatives et notre volonté, ça a vraiment été de proposer un produit réutilisable grâce à tous les services que l'on intègre directement dans l'emballage. Donc le meilleur produit pour favoriser l'acte de réutilisation, c'est de proposer un emballage sécurisé, intelligent, robuste et réutilisable.
Quels sont vos clients à l'heure actuelle ?
Aujourd'hui, on s'adresse aux professionnels qui veulent avoir le contrôle sur leur livraison. Et demain, dans un avenir proche, on s'adressera à tout type d'utilisateur, le client du e-commerce qui souhaite recevoir un emballage de ce type et qui souhaite multiplier les utilisations et proposer, par exemple, d'utiliser son emballage via les réseaux de seconde vie qui se développent aujourd'hui très rapidement. Et aujourd'hui, la palette des utilisateurs est complète. Hein. On part des entreprises jusqu'aux clients finaux du monde du e-commerce.
Et le monde médical, c'est aussi un secteur que vous visez ou qui utilise d'ores et déjà vos produits ?
Oui, le secteur médical a besoin d'emballages sécurisés. Ils ont besoin d'avoir le contrôle sur la livraison, de pouvoir s'assurer que la température lors de la livraison n'a pas dépassé des seuils critiques. Donc bien sûr, le secteur médical est aussi un secteur avec qui on travaille aujourd'hui.
Merci infiniment, Denis Mourin, de nous avoir présenté Living Packets, l'emballage connecté, intelligent et donc foncièrement écologique, on l'a bien compris. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup et il faut favoriser l'acte de réutilisation. En tout cas, c'est notre mission. Merci beaucoup.
Le message est passé. Merci à vous.
Au revoir.
Europe Matin, on Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil, il est 5h28, nous sommes le mercredi 15 juin. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre, où l'on entendra l'appel d'Emmanuel Macron à une large mobilisation en sa faveur dimanche pour le second tour des législatives. Et puis on va ouvrir une page cinéma avec tout d'abord les regards des professionnels du dessin animé tournés cette semaine vers Annecy.
Oui, où se tient le Festival International du Film d'Animation. C'est simple, c'est le plus grand rendez-vous mondial du secteur, au programme compétition avant-première, présentation en plus du grand marché de l'animation durant lequel studios et diffuseurs se rencontrent et négocient des contrats. Nous serons avec le délégué artistique du Festival d'Annecy, l'occasion de lui demander comment se porte le cinéma d'animation aujourd'hui. Marcel Jean sera donc notre invité dans un quart d'heure.
Et puis après, les sorties ciné avec Laurie Choleva à 5h50. Mais avant, la météo, Anissa Haddadi, et la chaleur gagne le nord.
Et oui, ça y est, on va atteindre la barre des 30 degrés sur la moitié nord du pays et ça va aller crescendo comme ça jusqu'en fin de semaine. Je vous rappelle que les journées les plus chaudes attendues sont vendredi et samedi, où on attend jusqu'à 38 degrés sur la capitale, 38 degrés sur Paris pour ce samedi.
On a hâte.
Voilà, ça sera pas la seule ville touchée, mais voilà, c'est un repère au nord de la Loire avec ces températures très chaudes. Donc effectivement, aujourd'hui, on va avoir 30 degrés à Quimper, ce qui est rare aussi, 31 à Paris et Marseille, 34 pour Dijon, 35 à Lyon, 36 à Carcassonne. On respire encore bien sur l'extrême nord avec 24 au Havre, 26 à Brest et à Lille et 27 à Lorient. Alors ce matin, c'est encore agréable, 6 à 15 degrés sur la moitié nord jusqu'à 21 dans le sud. Côté ciel, alors c'est assez ensoleillé presque partout. Ce matin, on a des averses orageuses localisées sur le centre-ouest, entre le Limousin et les Charentes. Elles se décalent et vont vers le Rhône-Alpes. Ça va être assez orageux cet après-midi dans la région lyonnaise, partout ailleurs. C'est très beau, très ensoleillé.
Prudence aux Lyonnais, donc merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mercredi, l'appel à la mobilisation générale d'Emmanuel Macron. À 4 jours du second tour des législatives, le chef de l'État met les Français face à un choix, c'est moi ou le chaos. Directement visé sans jamais être nommé, Jean-Luc Mélenchon répond au chef de l'État et moque la panique qui s'empare de la Macronie. Dans ce journal, la vague de chaleur et ses conséquences sur nos nerfs, température élevée et regain d'agressivité vont de pair. Et puis une célèbre romancière américaine derrière les barreaux, comment tuer son mari, c'est le texte publié par Nancy Crompton. C'est aussi ce qu'elle a fait, tuer son époux pour de vrai.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Emmanuel Macron était silencieux depuis dimanche. Pas un mot sur le résultat du premier tour des législatives. Il en a finalement parlé au moment où personne ne s'y attendait, c'est-à-dire hier, au pied de l'avion présidentiel en partance pour la Roumanie. À 4 jours du second tour, le chef de l'État appelle les Français au sursaut républicain face au risque que représente la NUPES. Jacques Serret, c'est peu dire que le tempo choisi a surpris tout le monde.
Oui, le décalage est saisissant. Emmanuel Macron, debout au pupitre, devant l'avion présidentiel, réacteur allumé, prêt à décoller. Le résultat d'une improvisation totale de la part du président. Car cette déclaration de 5 minutes n'était pas prévue au programme. Rédigée hier midi, à la va-vite, juste après le Conseil des ministres, juste à temps avant que son cortège ne file vers l'aéroport. Et si l'Élysée avait rapidement prévenu les médias que le chef de l'État souhaitait expliquer son voyage à venir, jamais l'entourage d'Emmanuel Macron n'avait évoqué le fait qu'il allait concentrer son message sur les législatives. Mais Ukraine et élections ne sont pas tant dissociées aux yeux du locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron fait le lien entre les deux. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial, assure-t-il. Donner de la gravité au moment, endosser le costume de chef de guerre. Avec entre les lignes ce message implicite, c'est moi ou le chaos. C'est la stratégie du chef de l'État pour tenter de mobiliser les électeurs autour de son camp, exactement la même que lors de la présidentielle, au risque de donner l'impression d'une certaine panique, du moins d'un manque de sérénité dans cette dernière ligne droite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui est arrivé hier soir en Roumanie au programme visite et dîner avec les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN. Le chef de l'État attendu aujourd'hui en Moldavie et peut-être à Kiev jeudi. Le conditionnel reste de mise. Rien n'est acté, dit son entourage.
Alors ce discours à moitié improvisé sur le tarmac de l'aéroport fait évidemment réagir le premier de ses opposants, un certain Jean-Luc Mélenchon.
1500 personnes réunies à Toulouse hier soir pour écouter le leader de la NUPES, l'Union de la gauche portée par des sondages, dernier en date, celui de l'Institut Harris pour le magazine Challenge qui lui promet jusqu'à 220 députés. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a raillé le discours d'Orly, mauvaise copie d'une pratique importée des États-Unis. Reportage Alexis de la Fontaine.
Jean-Luc Mélenchon en grande forme hier soir, chauffé par les 1500 militants présents. Le leader insoumis a directement attaqué Emmanuel Macron.
Son bateau coule, Macron prend l'avion. Certains disent qu'il s'enfuit. C'est pas vrai. Moi, je crois pas. En réalité, il nous méprise.
Puis il détaille ses critiques sur le programme de la Macronie. C'est un duel à distance car il refuse le débat, affirme un mélenchoniste. Mais très rapidement, le leader insoumis martèle sa volonté d'obtenir une majorité. Et pour cela, il en appelle à la jeunesse.
Et c'est elle qui va porter la lumière du siècle prochain. Nous autres, nous sommes beaucoup trompés, mes amis. Écoutez vos gosses. Dans vos gosses, il y a plus de sagesse que dans vos anciens.
Un discours flatteur envers les jeunes, majoritairement abstentionnistes, mais qui convainc Paul, étudiant venu soutenir l'insoumis dans son combat.
Au pire, il n'a pas de majorité, mais au pire, il empêche la majorité absolue pour Macron, et on sera le premier camp d'opposition, et ça marchera.
Ici, pour les militants, obtenir une majorité ou paralyser l'Assemblée reste un seul et même objectif. Toulouse, Alexis de la Fontaine, Europe 1.
Jean-Luc Mélenchon hier soir à Toulouse, propos recueillis bien sûr par Alexis de la Fontaine.
L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette vague de chaleur qui se répand progressivement sur toute la France. Anissa nous disait qu'elle était en train de gagner la partie nord du pays. Chaleur qui fatigue les corps, mais aussi qui échauffe les esprits.
Ouais, on devrait franchir la barre des 40 degrés dans le sud-ouest entre demain et samedi. Et on va passer les 30 degrés dans le nord du pays. Matignon a battu le rappel des préfets. Ils devront s'assurer que toutes les mesures de protection des plus fragiles sont en place. Une chaleur suffocante qui n'est pas sans conséquence, c'est vrai, sur nos nerfs. Plusieurs études montrent que notre agressivité est décuplée. Céline Géraud, c'est une question d'hormones.
Oui, et cette hormone, c'est le cortisol. Son rôle, nous permettre de réagir face à un danger ou une agression en allant puiser dans nos réserves énergétiques et musculaires. Alors quand le thermomètre frôle les 40 degrés, la sécrétion de cortisol est ininterrompue, provoquant l'épuisement progressif de l'organisme et du cerveau. Conséquence, insomnie, anxiété, fringale et pour les plus vulnérables, une agressivité qui peut parfois dégénérer. Joseph Agostini, psychologue et clinicien.
À partir du moment où les températures augmentent, on peut dire que l'agressivité peut être un exutoire et à ce moment-là se manifester beaucoup plus fréquemment. La température n'est que le révélateur de fragilités déjà existantes qui peuvent être à l'état latent et qui se révèle quand on est mal dans son corps, mal dans sa tête, et la température peut alors déclencher vraiment des états d'angoisse, de panique, voire de violence.
Et pour lutter contre cette agressivité inhabituelle, il faut donc rééquilibrer son taux de cortisol. Les conseils des spécialistes, dormir au moins 8 heures, écouter de la musique douce et croquer chaque jour un morceau de chocolat noir.
Céline Géraud, chef du service Société. Il y a la canicule, il y a la sécheresse. 36 départements ont déjà restreint l'utilisation de l'eau. Il y a aussi les risques d'incendie. En Lozère, 70 hectares de forêt ont brûlé à Sainte-Enimie.
5 heures passées de 36 minutes sur Europe 1. On en vient au procès de Dino Scala devant les Assises du Nord avec la suite de l'audition des nombreuses victimes. La cour également a entendu les enquêteurs.
Les policiers sont venus raconter la traque du violeur de la Sambre et ce moment où, après 30 années d'investigation infructueuse, de fausses pistes, ils finissent par le faire tomber. Compte rendu d'audience, Lionel Congelot.
Le responsable du groupe d'enquête à la PJ de Lille l'avait surnommé ironiquement « Monsieur Moyen ». Taille moyenne, corpulence moyenne, c'était en fait la description des victimes. Mais au moment de son interpellation, j'ai lu dans ses yeux que nous ne nous étions pas trompés, témoigne l'enquêteur. Dans son premier face-à-face avec le violeur de la Sambre, il lui glisse « This is the end ». Il m'a regardé, poursuit le policier. Sans doute qu'il a intégré effectivement que c'était la fin de son parcours, la fin de 30 années de traque qui provoque chez les enquêteurs un mélange d'amertume et de satisfaction. Au début, Scala garde le silence, puis il se met à collaborer avec les enquêteurs. Il se livre, il nous dit qu'il aurait aimé rencontrer des gens comme nous avant. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé le rencontrer avant, commente le policier. Et puis les enquêteurs remontent le fil du parcours du prédateur. Les premières plaintes dans les années 80 reçues dans des conditions scandaleuses, avoue le policier. À l'époque, reconnaît-il, il n'y avait pas la même empathie, la même attention à la parole de la femme. Alors il se tourne vers les parties civiles. Je vous présente les excuses de l'institution. Mais aujourd'hui, il est convaincu d'une chose. Toutes les plaignantes au procès sont bien des victimes de Dino Scala. Lionel Gougelot, Europe 1.
Le football, la descente aux enfers continue pour Bordeaux après une relégation sportive en Ligue 2. Les Bordelais viennent d'être relégués administrativement en National, l'équivalent de la 3e division. Les finances du club sont jugées trop fragiles, les dirigeants vont faire appel.
Une histoire digne d'un roman policier pour conclure ce journal.
Elle s'appelle Nancy Crompton. Cette auteure américaine avait écrit « Comment tuer son mari », texte parodique qu'elle a mis en pratique en tuant réellement son époux, Nicolas Carreau.
J'ai une mauvaise nouvelle à partager. Mon mari et meilleur ami, le chef cuisinier Dan Brophy, a été tué hier matin. Voilà ce que Nancy Crampton a laissé comme message sur Facebook le lendemain de la mort de son mari, retrouvé sur son lieu de travail avec 2 balles dans le corps. Premier indice pour la police, la veuve, 71 ans, en difficulté financière, devait toucher 1,5 million de dollars d'assurance vie. Deuxième indice, légèrement plus parlant, Nancy Crampton est auteure et elle avait publié quelque temps plus tôt un livre intitulé The Wrong Husband, le mauvais mari, et même un texte sur son blog « Comment tuer son mari ?» Carrément. Elle y détaillait les différents mobiles, les armes à utiliser, poisons, pistolets, couteaux, etc. Pas vraiment le crime parfait, donc, d'autant qu'elle a été aperçue à proximité de la scène de crime. Le tribunal de l'Oregon l'a condamnée à la prison à vie. Elle ne pourra pas faire une demande de libération avant 25 ans.
Nicolas Caro.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, à tout à l'heure. Les courses à présent, les pronostics du Quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Julien, c'est sur les 1100 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de la Teste que va se courir ce quintet. Et parmi les 14 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection les numéros 14, Simply Lovely, et 10, Pile ou Face. Classés dans cet ordre, aux 2 premières places d'un handicap disputé le 25 mai à la Teste sur le parcours qui nous intéresse. Visiblement au mieux, ces deux-là me semblent être incontournables. On leur opposera Snow Empress, le numéro 3, lauréate d'un quintet similaire, le 28 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau, et qui aura l'avantage d'évoluer cette fois à domicile, puisqu'elle s'entraîne chaque matin sur le centre d'entraînement de la Teste, avec Chirimiri, le numéro 4, le compagnon d'entraînement de Snow Empress, dont les 2 dernières tentatives dans cette catégorie des quintets est assurément bien meilleure que ne l'indique leur classement. Enfin, les numéros 1, Wedjan, 6, Forza Capitano, 8, Oasis Cove et 7, Blueberry peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 14, 10, 3, 4, As, 6, 8 et 7.
Vous retrouvez tous ces pronostics sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
On part aujourd'hui dans le monde littéraire. Les éditions Larousse ont créé en 1852, fête aujourd'hui leurs 170 ans. Et parmi leurs publications mythiques, le dictionnaire du Petit Larousse. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, le Petit Larousse est aujourd'hui riche de plus de 64 000 mots et 28 000 noms propres.
Oui, et d'abord, j'aimerais vous raconter comment le général de Gaulle est entré dans le Petit Larousse. L'anecdote est racontée en 1959 sur Europe numéro 1. Il a suffi d'entendre en 1940 le général de Gaulle pendant son appel du 18 juin pour voir qu'il prenait de l'envergure, expliquent les journalistes Jean Marin et Jean Oberlé. Ils avaient animé sur la BBC, Radio Londres, l'émission « Les Français parlent aux Français ».
Vous m'avez dit, tiens, en sortant du studio, il vient d'entrer dans le Petit Larousse.
L'homme était exceptionnel, et de ce personnage exceptionnel, rien ne nous étonne. On nous aurait dit qu'il atteindrait les plus hauts sommets en quelques minutes. Nous l'aurions cru.
Ce jour de juin 40, ils ont vu que le général de Gaulle marquerait l'histoire. Les personnalités qui entrent dans le Larousse sont souvent flattées. En 1967, le peintre et écrivain espagnol Salvador Dalí attendait encore d'y voir inscrit son nom.
Vous aimeriez figurer sur le Petit Larousse ?
Ah, naturellement, un très grand honneur.
Vous pensez y figurer bientôt ?
Ah, aucune idée, mais moi-même, je refais le dictionnaire, tous les soirs. À chaque fois que je dédicace ou que je fais un autographe, j'ai l'impression que j'apprends à écrire.
Dalí dit qu'il refait le dictionnaire, qu'il invente 5 mots nouveaux chaque soir à partir du Petit Larousse lorsqu'il ouvre le dictionnaire.
C'est une archive exceptionnelle de Dalí. Bon, il y a les personnalités qui savourent le fait de voir leur nom y figurer de leur vivant et ils accèdent ainsi à une forme d'éternité.
Oui, comme le chanteur Henri Salvador dont le nom apparaît en 2002.
Je défends la langue française, mais j'étais vraiment très touché, vraiment, c'est tellement inattendu pour moi. Je peux vous le dire crûment, on se sent moins con.
Dans les archives d'Europe 1, j'ai découvert aussi que le Larousse, en particulier les pages roses où se trouvent les citations et expressions latines, ont inspiré le créateur d'Astérix, René Goscinny, dans le choix des noms gaulois qui se terminent tous en X. Goscinny raconte cela en 1969.
En réalité, je n'ai jamais fait de latin, voyez-vous. Alors par conséquent, je me suis toujours inspiré des pages roses du Larousse.
C'est-à-dire que mes Romains, eux, ils parlent comme les pages roses du Larousse, ce qui d'ailleurs m'a permis, quelquefois, j'ai reçu des lettres de latinistes distingués en me disant, messieurs, vous avez fait une erreur, cette phrase n'est pas correcte, je l'ai réexpédiée à la page numéro 10 du petit Larousse illustré.
C'est dans le Larousse qu'il a en particulier trouvé le nom d'Assurance Tourix, qui a suscité à l'époque un long fou rire chez toute l'équipe qui travaillait sur la bande dessinée.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche, pour ces fabuleuses archives, et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, le Festival international du film d'animation Annecy.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Soyez tous les bienvenus à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h44 et c'est cette semaine que se tient à Annecy le Festival international du film d'animation, le plus grand rassemblement du genre où le meilleur de l'animation mondiale se retrouve en compétition. C'est l'occasion de découvrir, Omblin, également les dernières nouveautés animées.
Bonjour Marcel Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le délégué artistique du Festival international du film d'animation d'Annecy, une place que vous occupez depuis 10 ans. En plus de la compétition ou des présentations de films en avant-première à Annecy, tous les acteurs du secteur, diffuseurs, studios, producteurs viennent faire leur marché et nouent des accords entre deux projections. Marcel Jean, quels sont les films qui créent ou vont créer l'événement cette année ?
En fait, ils sont nombreux, ceux qui créent l'événement. Bon, d'abord, les films de la sélection officielle. On pense à Souls aveugles, Femmes endormies, Unicorn Wars. Dès ce soir, la projection de My Love Affair with Marriage de Sidney Bauman, qui a connu sa première mondiale à Tribeca il y a 3 jours. Ces films devraient être de grands morceaux de la compétition officielle, mais on a aussi toutes ces avant-premières qui sont présentées hors compétition dans le cadre de séances événements. Je pense à Number 7 Cherry Lane, ce magnifique film de Hong Kong qu'on attend depuis 3 ans puisque nous devions le projeter au Festival 2020 qui est devenu un événement en ligne à cause de la pandémie. Maintenant, la présence d'un grand nom du cinéma, Joe Dante, qui sera là pour nous présenter le premier épisode en première mondiale de la série consacrée au personnage mythique des Gremlins. Nous aurons aussi les premières images du prochain long métrage de Disney Animation Studio. Bref, un menu qui est copieux et pour tous les goûts.
Comment se porte le cinéma d'animation aujourd'hui ? Vous avez justement évoqué la pandémie.
Le cinéma d'animation a sans doute moins souffert de la pandémie que les autres formes de cinéma, dans la mesure où l'animation, c'est beaucoup des gens qui travaillent sur un ordinateur, qui dessinent, bref, qui ont pu continuer à travailler à la maison. On n'est pas là avec de gros plateaux de tournage où plusieurs centaines de personnes doivent se retrouver au même endroit, au même moment. Donc, par conséquent, ce sont des productions qui ont été, pour l'essentiel, moins perturbées que la prise de vue réelle. Et il faut le dire, le développement vertigineux des plateformes de diffusion pendant la pandémie a contribué à dynamiser une industrie puisque la demande pour des séries, pour des longs-métrages, pour divers formats destinés aux plateformes a été très, très grande. Donc, quand on regarde la situation aujourd'hui, on constate qu'il y a eu, entre 2018, 2019 et maintenant, une croissance de l'industrie.
Cette semaine, Annecy se retrouve donc au centre du monde du cinéma d'animation. Marcel Jean, quelle place occupe l'animation française dans le paysage international ?
L'animation française occupe une place, je dirais, qui est enviée et enviable dans le paysage international, dans la mesure où les studios français sont présents sur tous les formats de la plus grande industrie. Bon, on pense par exemple au film qui a fait notre ouverture cette semaine, le dernier épisode de la franchise des Mignons, Il était une fois Grou. Ce film, donc, il a été fait très très largement, voire presque entièrement à Paris. Et la France est présente sur le champ des séries, elle est présente sur le champ du long-métrage d'auteur de manière assez marquée. Cette année, en compétition, plusieurs longs-métrages sont français ou des coproductions françaises. Bon, on pense au Petit Nicolas, J'ai nommé tout à l'heure Saules aveugles, femmes endormies, interdit aux chiens et aux Italiens, Unicorn Wars, tous des films qui sont français. La France bénéficie d'un réseau d'écoles absolument exceptionnel. Et ça, année après année, on le remarque, année après année, on le dit, les diplômés français sont convoités par les plus grands studios et cela fait partie, je dirais, de l'ADN de l'animation française et des forces de l'animation française.
Vous l'avez précisé, hein, le cinéma d'animation se développe partout dans le monde, mais est-ce que l'industrie de l'animation souffre de ne pas être assez reconnue par le cinéma au sein du 7e art, notamment lors du Festival de Cannes ou lors des cérémonies de récompense? L'animation est-elle reconnue à sa juste valeur, selon vous?
C'est un débat qui a cours et qui revient à chaque année. Je vous dirais, non, l'animation n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ça, c'est clair, mais les choses évoluent. Bon, il y a des signaux positifs qui sont envoyés. Cette année, le fait que Flea, qui a remporté le Cristal du long métrage à Annecy l'an dernier, ait reçu 3 nominations aux Oscars, c'est quand même un signal tout à fait positif. Nommé comme meilleur long métrage d'animation, mais aussi nommé comme meilleur documentaire ou comme meilleur film en langue étrangère, ben, quand on regarde tout cela, ça indique que à travers l'industrie, il y a des gens qui n'appartiennent pas au cercle du cinéma d'animation et qui ont plébiscité ce film-là. Et je pense qu'il faut garder l'espoir et qu'il faut continuer à se battre pour changer les choses. Une programmation comme celle d'Annecy cette année, où de nombreux films abordent de grandes questions, des questions relatives à l'histoire, bon, je pense au le génocide arménien, la Shoah, le tsunami et l'incident nucléaire de Fukushima, bon, tous ces thèmes sont abordés cette année dans des films qui sont présentés à Annecy. Et le fait de continuer à parler de sujets adultes ne pourra que faire en sorte que la perception, elle va changer. Mais la perception, on la change spectateur par spectateur.
Et le signal positif, c'est Annecy qui est au centre du monde du cinéma d'animation et qui fait rayonner ce genre dans le monde entier. Merci beaucoup Marcel Jean. Je rappelle que vous êtes le délégué artistique du Festival international du film d'animation qui se tient donc à Annecy en ce moment. Il s'achèvera samedi avec la remise du Cristal d'Or au meilleur film en compétition. Merci encore, bonne journée, bon festival.
Merci.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, soyez tous les bienvenus. Le journal permanent, Alban Le Prince.
Jusqu'ici silencieux, Emmanuel Macron s'est lancé hier dans la bataille aux législatives alors que le second tour a lieu dans 4 jours. En sonnant la mobilisation générale pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée, réponse de Jean-Luc Mélenchon en meeting à Toulouse. Le bateau coule, Macron prend l'avion. Brumisateur, bouteilles d'eau et salles ombragées, voici quelques-uns des moyens déployés par les lycées aujourd'hui pour les 500 000 élèves qui passent leur bac de philo ce matin à partir de 8h en pleine vague de chaleur. Des températures caniculaires qui n'aident pas les pompiers qui luttent contre les incendies en ce moment, comme en Lozère où 70 hectares de forêt sont partis en fumée hier. Les soldats du feu étaient toujours mobilisés dans la soirée.
Nous sommes mercredi et c'est le jour des sorties ciné.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, on commence avec un nouveau délire signé Quentin Dupieux.
Oui, délire, c'est le mot qu'il faut. Ça s'appelle Incroyable mais vrai. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux après Mandibule. Une comédie avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel ou encore Anaïs de Moustier. L'histoire d'un couple qui emménage dans une maison et découvre une trappe d'apparence anecdotique dans la cave qui s'avère être en réalité un passage vers une destination inattendue qui va bouleverser le cours de leur existence.
J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit...
C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner?
Écoute, laisse-le parler, tais-toi.
Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose.
Bah, dites-nous quoi, merde.
Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité.
Non mais c'est juste dingue.
Et alors, c'est pas tout.
Vous aimeriez savoir, hein? Eh bien, je ne peux pas vous en dire plus. L'histoire est gardée très mystérieuse pour ne pas gâcher la surprise du film. Juste, c'est évidemment burlesque, c'est décalé, c'est déjanté et surtout c'est très drôle. C'est un film qui parle du couple, du temps qui passe, de la peur de vieillir, mais aussi de notre société de consommation. Finalement, après le pneu psychopathe dans Rubber, la veste qui rend fou dans Le Dain ou encore la mouche géante dans Mandibule, eh bien cette fois, c'est une trappe à l'origine de l'histoire. On se demande vraiment où Quentin Dupieux puise son inspiration, mais le résultat est toujours aussi efficace. Donc merci Quentin Dupieux. Alain Chabat d'ailleurs est un grand amateur de cet univers fait de fantaisie qui repose toujours sur une idée rocambolesque. Et il retrouve donc Quentin Dupieux, lui, pour la troisième fois. Écoutez-le nous parler avec Léa Drucker de l'ambiance du tournage.
Ouais, ouais, il y a eu quelques fous rires, ouais. Il y a quelques scènes qu'on a plantées.
Dès le début, dès la troisième
réplique. Oui, non, très très vite.
Parce que dans les dialogues, il y a des phrases impossibles à dire sans éclater de rire. Oui. En plus, dès qu'on arrive, ça ricane.
Ça ricane.
Mais en même temps, on prend ça au sérieux aussi.
C'est énervant en plus de niquer la scène. Le truc, il est bien. Putain, on l'a planté à
peu de choses. Ouais. Hein.
Alors, vous nous conseillez également cette semaine, Laurie, un film sur la famille.
Oui, Fraté, le nouveau film de Carole Rocher qui a donc co-réalisé avec sa fille Barbara Biancardini, qui a dirigé son compagnon Thomas Ngijol, sa deuxième fille également, et surtout qui a tourné dans le village de ses grands-parents à Vezzani, en Haute-Corse. Fraté raconte donc l'histoire de deux frères qui se découvrent l'existence l'un de l'autre suite au décès de leur père. Et pour partager l'héritage, ils vont devoir cohabiter dans la maison familiale corse durant un mois, ce qui s'annonce évidemment très tendu pour ces deux hommes qui, a priori, tout oppose.
C'est qui, lui ?
Georges souhaitait vous reconnaître. Je souhaite que tu vives 30 jours dans la maison de ta famille.
Non mais oh ! Tu arrêtes tes conneries, oui !
Ah oui, ça sent, là. S'il y a quelque chose qui pue ici, c'est pas le fromage.
30 jours. Non mais 30 jours, c'est rien.
Je suis 100 fois plus corse que toi. Je ressemble comme deux gouttes d'eau à ton père. C'est son sang qui coule dans mes veines. Mais moi, je sais qui je suis.
Voilà, donc un film sur la famille. On s'attache vraiment à ces deux faux frères joués par Thomas Ngijol et Samir Ghesmi qui sont très proches dans la vie, qui étaient heureux de ce projet ensemble. Et ça se sent. On sent de toute façon que c'était un tournage heureux. Et puis, c'est une véritable déclaration d'amour à la Corse du Nord, à ce village de Vezzani près de Corte, dans lequel Carole Rocher, la réalisatrice, a grandi. Il y a même des scènes tournées devant le caveau des grands-parents de Carole Rocher et de sa fille aussi, avec laquelle, je rappelle, elle co-réalise. Et les acteurs corses sont géniaux puisque tous les seconds rôles sont distribués à des acteurs corses. Voilà, donc la Corse est un personnage à part entière de ce film sur la famille.
Fraté, donc, avec Thomas Ngijol et Samir Ghesmi, et aussi Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Merci beaucoup Laurie Cheleva. On vous retrouve samedi bien sûr pour votre émission Clap sur Europe 1 entre 14h et 15h.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et de vastes questions.
Oui, sommes-nous responsables de l'avenir ? Discuter, est-ce renoncer à la violence ou alors l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ? Vous avez 4 heures. Et pas une minute de plus, vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui que se déroule l'épreuve du bac la plus redoutée, celle de la philosophie. 523 000 courageux terminales vont voir leur méninges particulièrement chauffé aujourd'hui face à ces questions qui soulèvent plus d'interrogations que de réponses. Elle est peut-être là la clé du succès. Quel écueil éviter à tout prix face à sa copie ? Qu'attendent fondamentalement les correcteurs ? Et puis, plus largement, à quoi sert la philo ? Voilà, pourquoi sommes-nous l'un des seuls pays à l'enseigner au lycée ? Voilà quelques-unes des questions que l'on va poser dans une dizaine de minutes à notre invité, le professeur agrégé de philosophie Gilles Verviche. Et puis on écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
La collaboration gagnante entre Disney et Elton John en 1994. Et je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance, la bande originale du Roi Lion dans la partition, dans 20 minutes.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi est au programme ce mercredi, des averses orageuses.
Oui, actuellement, là, tout de suite, nous avons des averses orageuses qui circulent sur l'ouest de l'Auvergne avec des coups de tonnerre. Ces averses circulent d'ouest en est, elles se dirigent vers la vallée du Rhône où là, on va entendre le tonnerre gronder cet après-midi. Partout ailleurs, le temps est calme, ensoleillé dès le lever du jour avec un ciel légèrement plus voilé qu'hier. Cet après-midi, donc, le tonnerre gronde entre le Lyonnais et les Alpes, mais partout ailleurs, c'est très agréable et les températures grimpent. 24 au Havre, 26 à Brest, 27 à Lorient, 30 à Quimper, 31 à Paris, 35 à Lyon, 36 pour Carcassonne.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Il est 6h. Très bon réveil à tous. Et à la une de ce mercredi, coup de chaud et sueur froide pour les candidats au bac. Il démarre à 8h l'épreuve de philosophie dans une chaleur harassante. Les chefs d'établissement se sont préparés en urgence, comme dans ce lycée de Lyon où nous partons dans un instant. Convaincre les abstentionnistes, le défi des partis politiques à 4 jours du second tour des législatives. Hier, le président du RN a choisi les Hauts-de-France pour remobiliser ses troupes. Et puis comment protéger vos photos, vos données personnelles sur Internet? C'est la mission du Web3, concept abstrait au cœur du salon Vivatech qui démarre aujourd'hui à Paris. On vous explique tout à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal que vous présente Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Peut-on agir sur les grands problèmes environnementaux? Vous avez 4 heures. En voilà une idée par exemple de sujet pour l'épreuve du bac philo ce matin. Près de 520 000 lycéens planchent à partir de 8 heures. Des élèves qui devront, quoi qu'il arrive, composer avec le réchauffement climatique.
Et surtout ses conséquences, la vague de chaleur arrive en France avec plus de 30 degrés aujourd'hui, y compris sur la moitié nord du pays.
L'examen s'annonce donc laborieux. Le ministre de l'Éducation nationale a d'ailleurs réuni les recteurs d'académie hier. Arthur Pereira a rencontré le chef d'établissement de ce lycée de Sens dans l'Yonne, où le thermomètre affichera plus de 35 degrés aujourd'hui.
On a des collègues qui sont déjà sur le terrain entre 5h30 et 6h le matin, ce qui permet d'ouvrir, d'aérer les bâtiments avant que les élèves n'arrivent.
Les volets sont encore fermés, les copies d'examen et les feuilles de brouillon sont déjà posées sur les tables des salles de classe. Philippe Gou, le proviseur, met tout en place pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions.
Éviter effectivement d'organiser les épreuves dans des salles évidemment trop exposées, maintenir les stores ou les volets fermés, alors sans évidemment que ça pose un souci aux candidats pour pouvoir lire les sujets. On a à peu près une centaine de bouteilles d'eau qui sont mises à disposition des candidats chaque jour.
En tout, ce sont plus de 1000 bouteilles d'eau qui sont entreposées dans les couloirs de l'établissement. En cas de malaise, juste à côté, le pôle santé est lui aussi opérationnel.
Les collègues infirmières qui sont naturellement présentes et qui pourraient être amenées à gérer des situations liées à des problématiques autour de la déshydratation par exemple.
Un message a été envoyé à chaque élève pour leur conseiller d'apporter de quoi boire et de quoi manger. Les travaux ont même été suspendus dans tout le bâtiment afin de garantir la réussite de chacun. À Sens, Arthur Pereira, Europe 1.
6h02, le chaos, c'est Macron. Dans Le Parisien ce matin, Jean-Luc Mélenchon poursuit son offensive contre la majorité présidentielle. Le leader de la NUPES en meeting aussi hier soir à Toulouse.
Un duel à distance avec Emmanuel Macron, le président attendu en Moldavie ce mercredi.
Et à 4 jours du second tour des législatives, le président a réclamé, je cite, une majorité solide avant de mettre en garde contre le blocage du pays. Dans le viseur du chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon bien sûr, et l'abstention.
Encourager la participation dimanche, c'est aussi l'objectif du Rassemblement national qui espère une quarantaine de députés dans l'hémicycle.
Oui, parce que le RN s'est qualifié dans plus de 200 circonscriptions, notamment dans les Hauts-de-France, fief du parti. Une région d'ailleurs choisie par Jordan Bardella hier. Déplacement suivi par Victor Chabert pour Europe 1.
Un véritable marathon pour le président du Rassemblement National. En une demi-journée, Jordan Bardella visite pas moins de 3 départements des Hauts-de-France pour soutenir 6 candidats. Passé au second plan à cause du score très élevé de la NUP, les résultats historiques du Rassemblement National dimanche galvanisent ce militant.
C'est formidable, on a fait un score plus qu'honorable. On rentre dans l'Oise, 6 sur 7 au deuxième tour, 4 en tête. On a tout fait, on colle, on tracte, on est surmobilisé.
Pour convaincre sur les marchés, Angélique, adhérente active du parti à la flamme, a un argument phare, contrer le président de la République.
Il faut faire barrage à M. Macron parce que sa politique nous a emmenés droit dans le mur. On va continuer à aller dans le mur si rien n'est fait.
L'état-major du parti, de son côté, se montre confiant et surtout fait un constat. Leur pire ennemi, l'abstention, ne leur est désormais plus défavorable. En témoignent les scores très élevés de ce premier tour, partout sur le territoire, malgré une faible participation.
Victor Chabert.
Et notez que Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, sera l'invité de Dimitri Pavlenko à partir de 8h13 sur Europe 1.
Un revers humiliant pour le gouvernement britannique. Le vol censé expulser des migrants vers le Rwanda a été annulé hier soir. Avion cloué au sol par un recours de dernière minute de la Cour européenne des droits de l'homme. Un raté qui ne décourage pas Londres dans son projet censé dissuader les traversées illégales de la Manche. 6h04, Julien, voilà qui va vous rappeler vos belles années. Vous savez, ces heures passées sur MSN ou Caramel. Le doux bruit d'un modem 56K. Je suis sûre que ça va vous rappeler des souvenirs pour vous annoncer, entre autres, la fin d'Internet Explorer aujourd'hui. Et oui, après 25 années de bons et loyaux services, Microsoft enterre son célèbre navigateur. Alors, si vous l'utilisez encore, pas de panique, vous serez redirigé vers ce qu'on appelle Microsoft Edge.
Ouais, c'est la fin de toute une époque. Microsoft qui, en tout cas, sera au salon Vivatech aujourd'hui, cet événement mondial dédié au numérique qui démarre ce matin à Paris.
Et dans les allées, vous entendrez parler métavers, NFT et autres crypto-monnaies, des mots assez obscur, je vous l'accorde, qui constitue pourtant le Web 3. Bon, là, Aurélien Fleuron, on a besoin de quelques explications.
Alors, rappelons d'abord ce qu'était le Web 1, les débuts d'Internet, essentiellement l'ère de la consultation, messagerie, moteur de recherche, on regarde des vidéos. Place ensuite au Web 2. Là, les internautes sont moins passifs, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, publient leur propre contenu, c'est la suprématie des GAFA. Et le Web 3, ce doit être la maîtrise de nos données, en utilisant notamment la technologie de la blockchain, les chaînes de blocs qui permettent de se protéger des géants du numérique, choisir plutôt que subir, comme l'explique Julien Furlanetto du cabinet Wavestone.
C'est un Internet qui redistribue en fait la valeur qui peut être générée par les uns et les autres. Par exemple aujourd'hui avec une plateforme comme YouTube, qui est typiquement ancrée Web 2, c'est-à-dire on a des créateurs de contenu qui sont rémunérés par un acteur centralisé qui est YouTube. Le Web 3, c'est les personnes qui regardent les vidéos qui peuvent directement verser la somme qui juge juste aux créateurs de contenu.
Cet Internet décentralisé va proposer de nouvelles manières de payer sans passer par les banques traditionnelles et également des expériences immersives. Là, c'est l'objet du fameux métavers qui, pour beaucoup de critiques, est plutôt pour l'instant fumeux.
Aurélien Fleuron du service économie d'Europe 1.
C'était le journal très concret de Roman Hockey. Merci beaucoup Roman.
6h06, le journal des sports à présent avec vous Martin Lange du football pour commencer et le coup de massue pour Bordeaux.
Oui, déjà relégué sportivement en Ligue 2, les Girondins se retrouvent ce matin en 3e division. Décision de la DNCG, hein, le gendarme financier de la Ligue de football professionnel qui réclame des garanties solides pour préparer la saison prochaine. Bordeaux, un monument en péril après 60 saisons au plus haut niveau, 6 titres de champion de France. Pour l'ancienne gloire du club, hein, Alain Giresse, tout ça était malheureusement prévisible.
Il y a eu toute une organisation de destruction de ce club depuis la reprise des Américains jusqu'à maintenant, c'est impressionnant, quoi. Si on voulait qu'il élimine, je crois qu'on ne pouvait pas faire, on pouvait pas faire mieux. Le club, c'est en train de mourir à tête du feu, mais c'est terrible parce qu'on se demande comment le club peut en sortir de cette situation.
Alain Giresse, joint pour Europe 1 par Jacques Vendroux, le président du club, hein, Gérard Lopez, a interjeté appel de cette relégation hier. Une décision devrait être prise début juillet.
Retour au terrain, Martin, et les Bleus au féminin, de retour à Clairefontaine.
Oui, après un stage dans le sud-ouest, l'équipe de France a pris ses quartiers au Centre National du Football. Les joueuses de Corinne Diacre préparent l'Euro en Angleterre, qui débute dans moins d'un mois. Elles espèrent remporter le premier trophée de leur histoire. Mais avant ça, place à la préparation physique, la sélectionneuse Corinne Diacre.
On est serein, on a fait un bon stage la semaine dernière. Il va falloir que les filles répondent bien aussi au travail, en espérant qu'on n'ait pas trop de blessés. On verra au fur et à mesure et au jour le jour comment va évoluer ce groupe.
Prochain rendez-vous pour les Bleus dans 10 jours, un match amical contre le Cameroun. Et le début de l'Euro, ça sera le 10 juillet contre les Italiennes.
En bref, Martin, le reste de l'actualité sportive.
Oui, avec du basket et le début de la finale du championnat de France, la Betclic Elite. L'ASVEL reçoit l'autre géant du championnat Monaco à l'Astrobal pour la première manche ce soir. Finale qui se dispute au meilleur des 5 matchs. Et puis un mot de tennis pour finir avec un retour. Serena Williams, 40 ans, 23 titres du Grand Chelem, disputera bien Wimbledon à la fin du mois. Un an après son dernier match, hein, déjà sur le gazon londonien. La 1208e joueuse mondiale n'en a pas fini avec la petite balle jaune.
Et on en est ravis. Merci beaucoup, Martin Lange. C'était le journal des sports.
Vous restez avec nous dans un instant. On va réfléchir, problématiser et disserter. Bref, on va passer l'épreuve du bac de philo. C'est ce matin et on en parle dans une minute avec le professeur Gilles Verviche. À tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h10, votre invité Julien est professeur agrégé de philosophie au lycée Louis Armand, c'est à Aubonne dans le Val d'Oise.
Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Merci beaucoup professeur d'être avec nous ce matin à quelques heures de l'épreuve emblématique du baccalauréat à 1h50 très précisément. Celle tant redoutée de la philosophie. 523 000 élèves de terminale vont aujourd'hui plancher sur des questions telles que le bonheur nous échappe-t-il inévitablement. Gilles Verviche, quel conseil leur donneriez-vous pour que l'épreuve de philo ne leur échappe pas, elle aussi?
Mais déjà, c'est de pas trop s'inquiéter, c'est pas grave. Hein, moi, j'ai eu 6 sur 20 au philo, au bac.
Ah oui, vous aussi?
Et j'ai fini agrégé de philo, donc finalement, on joue pas trop sa vie. Voilà, et puis, alors tous les conseils, bon déjà, c'est un peu tard pour réviser, là, je pense. Par contre, j'ai envie de dire, le premier conseil, vraiment, c'est pendant la première demi-heure, les 20 premières minutes, oublier son cours. Pour certains, ça ne sera pas difficile, je pense. Mais voilà, c'était le problème des élèves qui révisent, qui travaillent bien, c'est qu'ils se retrouvent souvent à réciter leur cours, quel que soit le sujet.
De manière mécanique.
Ouais. Voilà, donc vous parliez du bonheur, par exemple. Alors, si vous avez le sujet, tant mieux pour vous. Mais le bonheur, effectivement, tombe assez souvent. Mais ils vont voir le bonheur ou la liberté, et donc ils vont réciter le cours dans l'ordre. Alors qu'en fait, il y a 9 chances sur 10 que ça ne soit pas du tout la même question sur la même notion. Donc il faut d'abord prendre 20 minutes, réflexion personnelle, reprendre la question. Voilà. Les élèves, quand on leur pose une question en cours, aiment bien répondre souvent « ça dépend ». Voilà, c'est la question, la réponse fourre-tout. Je ne sais pas moi, le bonheur consiste-t-il à satisfaire tous ses désirs ? Ah ben ça dépend. Alors voilà, en philosophie, on n'aime pas trop que ça dépende. Mais au départ, c'est bien de dire « ça dépend ». Voilà. Et donc, de quoi ça dépend ? Comment ? Quelles sont toutes les différentes questions ? Chercher le problème, voilà.
Un brouillon, un plan, et ne pas hésiter à prendre une heure, voire plus, pour mettre ses idées au clair.
Ouais, c'est ça. Alors, une heure pour mettre ses idées, en fait. Alors, comme je disais, une demi-heure pour réflexion personnelle. La deuxième demi-heure, peut-être, le cours va commencer à venir. Voilà, c'est après que vous allez dire, tiens, ça me rappelle tel auteur, etc. Et la deuxième heure, effectivement, pour hiérarchiser ses idées, faire son plan. Normalement, effectivement, on ne commence pas à rédiger à 8 heures. Hein, c'est qu'il y a un petit problème. Hein. On commence à rédiger normalement à 10 heures. Voilà. Faut faire un plan. Voilà, ça se voit hein, quand il n'y a pas de plan. Hein.
On s'en tient toujours à la sempiternelle thèse, antithèse, synthèse ou c'est un peu éclusé tout ça il faut...
Non, c'est pas du tout éclusé.
Non.
C'est la dissertation spécialité française. Je ne sais pas si c'est très bien, mais effectivement. Après, il faut savoir ce qu'on veut dire par thèse, antithèse, synthèse. Voilà, il y a un côté oui, non, bof. Voilà, je dirais. Voilà. Le bof étant un peu fourre-tout, ça dépend. Donc l'idée, c'est quand même à peu près une première partie où on défend une thèse, qui est en général celle du sens commun, on dit, hein, ce que, en défendant avec un auteur. Une deuxième partie qui est plutôt objection. Il ne s'agit pas en fait de dire une chose et son contraire. Hein. Les élèves aiment bien dire, on vient de montrer une chose, on va montrer son contraire. J'ai envie de dire, si tu es content de ce que tu viens de dire, pourquoi tu veux montrer le contraire ? Donc c'est plutôt une affirmation, des nuances, des objections, et puis dans la troisième partie, on répond. Je précise d'ailleurs qu'il faut essayer de faire une troisième partie dans la mesure du possible quand même, même si c'est juste un paragraphe, essayer de résoudre un peu le problème.
Gilles Verviche, est-ce qu'il est permis d'utiliser l'actualité pour alimenter sa réflexion ? Si on fait par exemple référence aux législatives, à l'abstention, parce qu'on a choisi, je ne sais pas, le thème du devoir, est-ce que c'est prendre un risque ?
Non, c'est très très bien, c'est très très bien d'utiliser l'actualité. Moi je dis souvent aux élèves, prenez un exemple réel ou passé, présent ou passé, réel ou fictif. L'actualité, c'est bien, ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, si c'est pour enfiler des perles et puis dire la guerre c'est moche, la vie c'est beau, les cheveux sur la tête ça pousse, c'est pas la peine. Mais effectivement, par exemple, en spécialité humanité, littérature et philosophie, était tombé le sujet qu'est-ce qu'être en guerre. Alors voilà, c'était un beau sujet d'actualité puisque d'une part, on avait un président de la République qui nous avait dit nous sommes en guerre à propos du Covid et en face, un Poutine qui dit ce n'est pas une guerre, c'est une intervention spéciale. Donc, qu'est-ce que ça change de dire qu'on est en guerre ou pas ? Voilà, donc c'est très bien. Ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, on peut très bien prendre un sujet d'actualité, même, j'ai envie de dire, puisque je défends un peu pop philo, j'avais fait un bouquin sur Star Wars, la philo, contre-attaque, et donc on peut très bien prendre une série télé, un film, et en faire quelque chose de très bien. Voilà, ça dépend un peu jusqu'où on va.
L'idée derrière la philosophie, c'est peut-être bien de le rappeler à 1h et 36 minutes de l'épreuve, c'est pas tant de trouver des réponses que de soulever des questions, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Les élèves qui sortent de l'épreuve en disant « Oh, tout s'est bien passé, j'ai eu aucun problème », on peut être sûr qu'ils ont raté leur épreuve, parce que normalement, il y a un problème. Voilà. Alors après, effectivement, c'est... Alors pour ce qui est de cette épreuve spécifique, il faut problématiser dans l'introduction, oublier toutes vos histoires de définir les termes, annoncer le plan. Moi, honnêtement, quand l'élève commence à annoncer le plan, je lis même pas. Je sais que pendant 3 lignes, il va me dire « On va montrer ça, puis après on va montrer ça, bon, on verra bien ». Ce qu'il faut, c'est problématiser. Après, dans la vie, je pourrais vous expliquer...
Si on prend juste, par exemple, un des sujets proposés l'année passée. Discuter, est-ce renoncer à la violence ?
Ouais.
Je vous donne 1 minute.
Ouais.
On vous écoute. Je rêvais d'inverser ce, d'inverser les rôles au moins une fois dans ma vie.
Alors, discuter, est-ce renoncer à la violence ? Alors, en fait, la réponse, ça va faire ministre qui répond, je pourrais faire porte-parole du gouvernement. Le but, c'est pas de répondre, en fait. Hein, c'est pas de répondre à la question, c'est de montrer pourquoi on peut pas répondre. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, alors comme je vous disais, d'abord la réponse du sens commun, discuter, est-ce renoncer à la violence ? Effectivement, on a plutôt tendance à penser que oui, puisque quand on commence à parler et pas utiliser les points, c'est qu'on commence à utiliser une forme d'échange un peu plus civilisé. Mais oui, mais non, parce qu'on se rend compte d'abord qu'on peut blesser le langage. En spécialité, il y a ça, les usages de la parole. La parole peut être aussi une arme, peut tuer sans doute, le ridicule tue. Et on sait très bien que d'ailleurs, des propos haineux, enfin je veux dire, hein, imaginez quelqu'un qui incite à la haine, etc. Vous savez qu'il y a des propos qui sont interdits, ça doit être sans doute parce que ces propos-là, voilà. Donc en fait, c'est pas tellement, c'est pas renoncer à la parole en elle-même n'est pas forcément, ça dépend comment on s'en sert. C'est un moyen, le langage, c'est pas une fin en soi. Donc voilà. Donc je vous dirais oui, non, bof.
Voilà, bon, au moins vous avez la moyenne. Je vais vous poser à présent une question un poil provocatrice. Ça sert à quoi la philo, Gilles Verviche ?
Eh ben, j'ai envie de dire, et vous servez à quoi ? Voilà, c'est-à-dire, en fait, je pense, ça sert à rien, donc c'est absolument nécessaire. Voilà, deux choses. D'abord, si on veut gratter, ça sert à plein de choses. Hein. Ça sert à penser par soi-même, donc à développer.
À être libre
de penser et pas être enfermé dans ses opinions. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, effectivement, si je vous demande ça sert à quoi d'être heureux, personne va se demander à quoi ça sert. Enfin, tout le monde va s'étonner pourquoi ça sert à rien d'être heureux, parce que c'est un but, c'est une fin en soi. Ça sert à quoi de lire, d'aller au cinéma ? Ça sert à rien, ça sert. Voilà, donc en fait, pour moi, la philosophie, c'est pas un moyen pour autre chose, c'est le but de tout. Moi, j'ai l'impression que tout prend son sens quand on atteint la philosophie. Donc, puis j'ai envie de dire, à partir du moment où on est tous des êtres humains qui pensons, je pense qu'on est tous capables de faire de la philosophie, y compris et surtout les élèves qui vont plancher ce matin.
C'est une spécificité française, la philosophie. Je crois qu'on est l'un des rares pays, en tout cas, à l'enseigner au lycée. Ouais. Et c'est une spécificité qui survit à toutes les réformes du baccalauréat. Comment vous l'expliquez ? C'est un totem ?
Je pense, j'imagine.
Où il y a un lobby caché des profs de philo ?
Je sais pas ce que ce lobby. Moi, personnellement, j'ai rien fait. Et puis, s'il y a un lobby caché, c'est pas mal. Le lobby qui oblige les gens à réfléchir par eux-mêmes, c'est pas mal, quoi. Enfin, voilà, on est un peu loin de la dictature. Enfin, une dictature qui oblige les gens à réfléchir, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Donc, voilà. Donc, ça doit être l'héritage des Lumières. Peut-être que le président de la République a fait philo, donc on est un peu sauvé. Et puis, j'ai envie de dire, le service militaire étant terminé, c'est un peu la dernière. Épreuve initiatique qui permet de passer de l'adolescence à l'âge adulte en France. Hein, y a un côté rituel, là on se voit tout, à chaque fois que l'épreuve de philo tombe, tout le monde en parle.
C'est un événement, oui.
Voilà.
Merci beaucoup Gilles Verviche, professeur agrégé de philosophie, de nous avoir éclairé ce matin. Je précise qu'on peut vous retrouver sur scène à partir de ce samedi au théâtre de 10h à Paris dans votre One Man Show. Son titre, êtes-vous sûr d'avoir raison ?
Voilà.
À l'évidence, non. Encore merci et à très bientôt.
Merci.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition du film d'animation Disney Le Roi Lion. À tout de suite.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce mercredi, Alban Le Prince.
Emmanuel Macron dans les Balkans, le président va en Moldavie aujourd'hui où sont accueillis 100 000 réfugiés ukrainiens. Hier soir, il a rendu visite à 500 militaires français déployés depuis le début de la guerre en Ukraine sur une base de l'OTAN située en Roumanie. En Ukraine, justement, la Russie annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire de 12 heures aujourd'hui dans la ville clé du Donbass de Severodonetsk. Il devrait permettre d'évacuer plus de 500 civils retranchés dans l'usine Azot. Et puis Damien Abad, visé par de nouvelles accusations révélées par Mediapart, déjà mise en cause pour violence sexuelle. Une femme dit avoir été victime d'une tentative de viol de la part du ministre des Solidarités en 2010. Il réfute ces allégations.
On termine avec votre partition, Omblin. C'était il y a 28 ans, le 15 juin 1994, les studios Disney présentaient un nouveau long métrage qui tranchait avec les traditions bien ancrées et codifiées de la firme américaine. Il s'agissait du Roi Lion.
Alors à bien des titres, Julien, le Roi Lion rime avec innovation. Disney se met en danger, ose plusieurs paris, sans se douter que le film va devenir le plus gros succès animé de tous les temps. Il n'est tiré d'aucun conte de fées, il ne met pas en scène des humains, il parle ouvertement du deuil et pour la première fois un personnage important meurt en gros plan. Et puis, ce sur quoi on va s'arrêter ici, des grands noms de la musique signent la bande originale. C'est l'histoire de la vie.
Pour écrire et composer cette musique du Roi Lion, il y a d'une part Hans Zimmer et d'autre part Elton John, épaulé par le parolier Tim Rice.
Oui, Hans Zimmer, d'abord le compositeur allemand à la filmographie colossale. Il se trouve qu'Alan Menken, employé par Disney pour s'occuper habituellement des musiques, est surchargé de travail à cause de Pocahontas. Voilà une opportunité pour les studios de tenter quelque chose, de faire appel à celui qui vient de se faire un nom grâce au thème de Thelma et Louise et de Rain Man.
Sauf que Hans Zimmer n'aime ni les comédies musicales ni les dessins animés.
Il se laisse pourtant tenter car, dit-il, il va enfin pouvoir emmener sa fille de 6 ans à une avant-première.
Hans Zimmer s'inspire de son histoire pour composer la partition du Roi Lion.
La perte de son propre père quand il était enfant, il explique si cela traite de la mort d'un père, alors je vais écrire un requiem sérieux. C'est lui également qui apporte l'idée d'incorporer des éléments africains dans la musique pour nous faire entrer dès les premières notes dans l'aventure. Les chœurs zoulous sont dirigés par l'artiste sud-africain Lebo M. Enfin, Hans Zimmer est chargé de tous les arrangements. Il confie s'être montré particulièrement reconnaissant envers Elton John qu'il a laissé, je cite, « se déchaîner sur ses chansons ».
Donc pour la partie chanson, c'est le parolier Tim Rice qui propose le nom d'Elton John.
Oui, on ne peut pas dire que les producteurs se montrent emballés. Ils s'interrogent surtout sur la façon dont l'exubérance de la pop star va bien pouvoir s'intégrer à la structure guindée de Disney. Si Elton John, lui, est prêt à relever un nouveau défi, à réveiller son âme d'enfant, il se demande si sa carrière ne prend pas une mauvaise direction. « J'étais en train de composer, dit-il, une chanson sur un facochère péteur. » C'est du Elton John dans le texte. Il y a de quoi se retrouver effectivement désarçonné. Finalement, Disney va s'offrir un nom. Jamais un artiste d'une telle envergure n'avait prêté son talent à un film d'animation. Quant à Elton John, en plus de signer l'un de ses plus grands succès, il remporte à Hollywood l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Can You Feel the Love Tonight. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Elton John qui illustre la romance entre Simba et Nala. Can You Feel the Love Tonight, extrait de la bande originale du film Le Roi Lion, sorti dans les salles de cinéma américaines le 15 juin 1994. Le compositeur Hans Zimmer remportera lui aussi un Oscar, celui de la meilleure musique de film.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. La matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.